Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent pas.
You are fake news. Hello.
Il est 9h40 sur France Inter, c'est reparti pour une nouvelle semaine d'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
De quoi la bataille de l'article 13 est-elle le nom ? D'une volonté de remettre tout simplement de l'ordre dans le droit d'auteur, d'obliger, YouTube, Instagram et autres à signer des accords avec les artistes ou avec leurs héritiers, de les obliger à les rémunérer, voire à respecter par exemple leur volonté de ne pas voir leur travail circuler sur Internet. Les plateformes du web hurlent, ingérable, comment voulez-vous faire le tri ? Ça va nous obliger à bloquer d'emblée des millions de vidéos. Le texte a pourtant été voté au Parlement européen mi-septembre. Mais il reste un long processus de négociation concernant l'écriture de la version finale. Ce qu'on vous raconte ce matin, c'est l'incroyable campagne menée par YouTube contre l'article 13, transformant pour la première fois ses meilleurs ambassadeurs, à savoir les YouTubeurs, en lobbyistes.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
L'heure est grave, mes amis, je vous le dis.
À vrai dire, la situation, je pense, n'a jamais été aussi grave qu'à l'heure actuelle.
Et sur le sujet, c'est de parler de cet article 13 qui va totalement décimer Internet et qui va envoyer tous les youtubeurs à Pôle emploi.
Et qui risque fort de signer la fin d'Internet, en tout cas tel qu'on le connaît et tel qu'on a contribué à le construire.
Beaucoup de youtubeurs en parlent comme si ça allait être la fin de YouTube.
C'est en fait tout simplement de la censure.
You can't upload footage of me, okay? They will restrict content in the European Union.
Ils ont collecté pour nous une foule de vidéos découpées dans ce petit montage. Ils les ont collectées sur YouTube. La dernière voix que vous entendez dans ce montage, c'est celle de PewDiePie. Il est suédois. Lui aussi, il a enregistré une vidéo contre l'article 13. Sachez que PewDiePie est le YouTuber qui compte le plus d'abonnés au monde. Donc chaque fois qu'il éternue, il y a au moins 9 millions de personnes qui l'écoutent et qui le regardent. Mes invités sont le collectif Tatou. Bonjour à vous.
Bonjour.
Hugo. Et Ludo, qui représente le collectif. Votre chaîne fait de la pédagogie à travers des vidéos YouTube sur des sujets de culture générale. Là, c'est un gros dos, comme vous dites vous-même. Ouais. Un énorme dossier qui vous a demandé beaucoup de travail. 27 minutes de vidéos que vous proposez à tous les internautes sur votre chaîne YouTube. Vous avez été collecter des arguments des deux côtés de la bataille de l'article 13, les pour et les contre. Vous les analysez finement et surtout vous les expliquez, vous les rendez accessibles à tous. Bravo, vous avez fait un boulot extrêmement dense, fin et précis que peu de journalistes ont eu le mérite et la patience de signer. On va commencer, chers amis, par cette campagne de lobbying à laquelle on assiste depuis 2 mois de manière très visible, depuis beaucoup plus longtemps en réalité. Ça a commencé par un matraquage sur les réseaux sociaux. Vous-même, youtubeur, vous avez reçu des mails vous invitant à participer à des événements et vous rassemblant pour une grande campagne de prévention et de sensibilisation contre l'article 13. Alors vous avez eu la curiosité, par exemple, d'aller regarder derrière les logos, derrière les institutions et les organismes et les ONG qui s'associent à cette campagne de sensibilisation.
Copyright for creativity. Si, for si. Évidemment, on a voulu savoir ce que c'était. Pareil, on va sur le site, puis dans À propos, et on cherche un peu. On tombe très rapidement sur un nom. Caroline de Kock. C'est la coordinatrice de Si, for si. Et elle est aussi directrice de N-Square, une société de lobby européen avec, dans ses clients, Google et donc YouTube.
Et on peut aller encore plus loin. Parmi les autres clients de N-Square, il y a aussi CDT, Center for Democracy and Technology, qu'on retrouve également dans la liste des organismes derrière Creative Fresh ou Save Your Internet. CDT est dirigé par Noala O'Connor, dont le poste précédent était chez DoubleClick, société de Google.
Encore ? Dans l'onglet financement de Save Your Internet, il est indiqué que la campagne est financée par CCIA, Computer and Communications Industry. Je vous laisse imaginer qui est membre de cette organisation.
Et oui, évidemment.
Et encore, là, on ne parle que de ces campagnes-là. En réalité, il y en a plein d'autres, comme Fix Copyright, organisé par Edima, où là aussi, on retrouve parmi ses membres Google.
Voilà, pour ceux qui en douteraient, les youtubeurs ne font pas que parler maquillage ou jeux vidéo. Hugo et Ludo du collectif YouTube. Donc c'est extrêmement important d'aller montrer les tenants et les aboutissants de cette campagne de lobbying, dont vous êtes à la fois des sujets et des acteurs, on va y venir.
Oui, c'est ça, parce que au final, nous les youtubeurs, on a eu qu'un seul son de cloche, on va dire, celui de YouTube, qui nous a envoyé des mails, appelé, alors via directement ou via justement différentes campagnes de lobbying qu'on a pu voir. Mais c'est vrai que la première approche, elle faisait peur, parce qu'on nous a dit vos chaînes vont fermer, voilà. Si l'article 13 passe, donc tout le monde s'est un peu mobilisé là-dessus, ce qui est normal. Nous, on a, on va dire, un passé de journaliste.
On était
ancien journaliste, donc on s'est posé des questions et on s'est dit, mais c'est quand même, c'est un peu bizarre, parce que pourquoi est-ce que tout d'un coup ils viennent nous voir à ce point pour les aider? On va peut-être un peu chercher. Et on
mais
s'est
Hugo, ce qui est très intéressant, c'est que là, vous mettez le doigt sur toute la partie invisible de cette campagne de lobbying, c'est-à-dire avant que YouTube se démasque.
Oui, YouTube, ça a été vraiment le dernier levier qu'ils ont actionné. Et après, tout le reste, c'était des trucs dont nous-mêmes, en fait, on n'avait pas conscience, quoi, tu vois. Nous, on a pris conscience de cette espèce de démarche quand on a commencé à recevoir les mails un peu agressifs qui faisaient un petit peu flipper. Et c'est en recherchant là-dessus qu'on s'est rendu compte que, putain, en fait,
les actions étaient beaucoup plus anciennes.
Mais même d'autres campagnes avant Stop Article 13 auxquelles on avait été conviés, genre Create Refresh et tout ce dont on parle. Et c'est des mails qu'on avait reçus bien avant. Et c'est là où on a fait le lien et on a découvert que finalement, ce truc remontait déjà depuis un petit moment, quoi.
Voilà. Et derrière, c'est Google, YouTube qui sont.
Voilà, et on va rappeler que YouTube appartient à Google. Oui, bien sûr, derrière, il y a une maison mère extrêmement puissante qui s'appelle Google. Deuxième étape, justement, à partir de cet hiver où justement YouTube va changer de stratégie, va se démasquer, va avancer avec vraiment à visage découvert, postant des vidéos fabriquées par eux-mêmes. Pour mobiliser l'opinion publique, plus seulement les youtubeurs, l'opinion publique. On les écoute, vous allez voir, ils reprennent tous les codes de qui? De leurs youtubeurs.
Bonjour à tous, je m'appelle Romain, je travaille chez YouTube et je m'occupe des relations avec les créateurs en France. Vous avez dû entendre parler de l'article 13. On voulait faire une vidéo pour vous expliquer certains points qui nous paraissent importants et qui répondent à certaines questions qu'on a entendues. C'est donc un sujet qui est assez compliqué. Et pour mieux répondre à mes questions, j'ai demandé l'aide de Cédric, qui est spécialiste du droit d'auteur chez YouTube, et qui va m'aider aujourd'hui. Donc, bonjour Cédric.
Bonjour.
Hugo, il faut la décrire cette vidéo parce que
je trouve ça formidable. C'est le mec qui analyse YouTube avec un gars de chez YouTube même, tu vois, je trouve que
qu'on connaît d'ailleurs, c'est d'ailleurs Romain, ce fameux Romain, c'est celui qu'on a eu au téléphone aussi pour justement faire nous la
mais
vidéo,
surtout,
on lui a posé des
questions. Ils reprennent tous vos codes, c'est-à-dire qu'ils sont sans cravate, ils s'appellent par leur prénom, ils se tutoient, ils parlent face caméra.
Mais la vidéo n'a pas beaucoup marché celle-ci pour le
c'est
coup.
Vrai
Ouais, je crois pas, il me semble
pas énorme.
Voilà.
Mais effectivement, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'ils sont un peu sortis du bois à partir du moment où la directive a été votée, on va dire.
Il est
passé du coup dans la phase de trilogue, puisque avant il n'y avait pas besoin forcément, puisque c'était pas encore voté, donc c'était plutôt discret. Et puis quand c'est passé, il a fallu sortir l'arme fatale, quoi.
Alors le fameux Romain conclut les 5 minutes de vidéo signée par YouTube lui-même en disant alors que faire? Tous les internautes doivent se faire entendre, parce que vous êtes concernés, vous allez être privés de centaines de millions de vidéos auxquelles vous aviez accès gratuitement jusqu'à présent. Il y a un hashtag sur Twitter, rejoignez-nous. Il y a une pétition sur change.org, pétition relayée d'ailleurs par des youtubeurs hyper hyper populaires.
Ouais, elle a beaucoup marché la pétition.
Hein, Squeezie, Cyprien, etc. Et puis surtout, à chaque vidéaste d'enregistrer sa vidéo pour protester et puis pour dire à ses abonnés, regardez ce qui va se passer. Vous en avez collecté quelques-unes, le collectif Tatou.
Et même un simple poster que vous avez chez vous, une figurine, une affiche, peut être l'objet d'un blocage international.
Voilà, il y a un Sonic là, il y a un champignon de Mario qui est là. J'ai pas les droits, techniquement, de diffuser ça, donc vidéo bloquée.
Vous voyez l'inscription Rode là?
Eh ben, je vais devoir la cacher.
Vous voyez le micro là?
Il y a la marque du Technica et le logo.
Eh ben, je vais devoir tout cacher.
Vous voyez ce poster One Piece? Ça dégage.
Ouh là 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 là, ça va faire beaucoup beaucoup de vidéos bloquées. Alors Ludo,
tout le monde avait peur, hein.
Ludo, on explique pourquoi ça c'est faux et archi faux.
Alors oui, c'est faux effectivement, puisque ce n'est pas le droit d'auteur. On parle de marque là, donc c'est le droit des marques tout simplement, et ça n'entre pas dans l'article 13 là-dessus. Mais effectivement,
il y a
c'est ce
un
qu'on
argument
a eu comme,
qui a beaucoup circulé, c'est-à-dire
la fameuse canette de Coca.
Alors expliquez.
Effectivement, qu'on pourrait pas avoir dès qu'on a par exemple une canette de Coca maintenant sur une vidéo YouTube. En réalité, YouTube va devoir bloquer puisque elle n'aura pas les droits de diffuser en tout cas la bouteille de Coca. Qu'en fait, c'est faux puisque c'est le droit des marques, ça n'a rien à voir. C'est deux domaines un peu différents et l'article 13 ne n'a aucun rapport avec ça.
Hugo, autre chose que vous avez débunké, comme disent les fact-checkers, c'est-à-dire tout ce qu'on entend là dans ces vidéos, des éléments de décor, c'est-à-dire il y a une marionnette Pikachu derrière moi, il y a une couverture de manga, etc., etc. Tout ça, c'est du droit d'auteur. Tout ça, ça va faire bloquer ma vidéo.
Bah non, du coup, c'est exactement pareil que ça. Alors, c'est quand on a, il y a deux entités, il y a la marque et la création. C'est-à-dire que si tu fais passer un Pikachu, c'est pas pareil que si tu fais passer une marque Nintendo.
Voilà, c'est l'inclusion fortuite aussi.
Voilà. Et ça, pour le coup, c'est pris en compte. Et c'est en fait, c'est on sait que c'est un élément de décor. Et t'as complètement le droit de le laisser. Et c'est exactement ce que tu disais. C'est ça, c'est le terme, c'est l'inclusion fortuite. Je suis pas sûr que ce soit un terme juridique, par contre. Mais
non, mais c'est le terme qui est défini, en tout cas, voilà, et dans les débats, etc. C'est ce qui souvent revient.
C'est totalement pris en compte. On va pas bloquer ta vidéo parce que t'as un coquin, un Pikachu, un One Piece ou quoi que ce soit derrière toi.
Parce que c'est pas le centre de la vidéo.
C'est pas le centre de la vidéo.
En revanche, on n'a pas le droit de diffuser un épisode des Pokémon entièrement gratos dans sa vidéo YouTube. Sauf que c'était déjà le cas, en réalité. Et c'est là où votre travail est très, très intéressant. Pourquoi est-ce que YouTube s'est lancé dans une croisade aussi massive et aussi impressionnante, hein? On va résumer. En fait, le droit d'auteur, c'est dès qu'une œuvre génère de l'argent, son créateur doit tout simplement en bénéficier. Il faut que ça lui rapporte de l'argent aussi. Sauf que le droit d'auteur s'applique déjà sur YouTube. Et ça, Ludo, il faut expliquer que le droit d'auteur, c'est pas nouveau pour YouTube.
Non, c'est pas nouveau parce que justement c'est quelque chose où ils ont été confrontés à ça il y a quelques années puisque justement il y avait pas mal de youtubeurs on va dire qui faisaient des vidéos avec des extraits
alors,
qui
des
étaient
extraits
protégés
de quoi de
des extraits de films, de musique, de choses comme ça, de séries télé, de d'émissions par exemple, voilà, si je mets un extrait de France Inter. Et du coup il se trouve que les titulaires des droits se sont un peu rebellés contre ça et ont commencé un peu à gueuler là-dessus et YouTube a répondu en faisant un peu plus attention. Alors, ils sont pas obligés de le faire, mais ils le font via un outil qu'on appelle Content ID.
Alors, c'est un robot. Racontez-nous cet outil.
Alors, le principe de l'outil, c'est que chaque ayant droit va pouvoir donner à YouTube une version de son œuvre. Et YouTube, du coup, va pouvoir l'analyser. Et dès qu'elle sera uploadée sur la plateforme, à ce moment-là, la vidéo
va être...
Voilà,
le robot reconnaît. Il reconnaît du Michael Jackson, un film d'Hitchcock.
Tout ce qui est enregistré dans le robot, quoi.
D'accord.
C'est ça. Et il y a beaucoup de choses enregistrées dans le robot. Le problème, c'est qu'après, ce robot, on va dire, il a des failles.
Oui.
C'est pour ça que nous, et je tiens à le rappeler aussi, on n'est pas pour l'article 13 ou contre l'article 13, nous ce qu'on fait c'est surtout débunker des choses, voilà. Mais effectivement il y a des choses bien dans l'article 13, des choses moins bien, c'est important de le souligner aussi. Et effectivement le Content ID, on va dire ce robot a du mal à différencier les choses. Par exemple aujourd'hui la technologie ne permet pas à YouTube les exceptions de droit d'auteur, c'est-à-dire l'extrait, la citation, la parodie, etc.
Hugo, c'est important quand on dit l'exception du droit d'auteur, c'est-à-dire que on a toujours le droit de critiquer une œuvre, on a le droit de la parodier et on va garder ce droit-là.
Exactement.
Donc, si je cite un film pour en faire la critique...
C'est ok, ça n'a rien à voir avec le droit d'auteur et l'article 13 dit pas du tout que t'arrêtes de dire du mal de tel truc ou machin. T'as complètement le droit et ça a jamais été remis en question par une quelconque directive européenne, quoi.
Sauf que quand Content ID a pas le pouvoir de le faire.
Non.
Donc l'idée, Ludo, c'est que en réalité, les artistes ou leurs héritiers, leurs ayants droit en général, vont signer des accords avec sur leur rémunération, voire sur leur interdiction de faire circuler leur travail sur Internet, parce qu'il y a des artistes comme Jean-Jacques Goldman, par exemple, qui ne veulent pas que leurs chansons soient en ligne. Et là, les plateformes vont être obligées de le respecter.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors, plus ou moins, c'est-à-dire que en fait, elles ne seront pas obligées, elles, d'aller vers les artistes, on va dire. Mais par contre, quand les artistes viendront vers eux, premièrement, elles seront obligées de trouver un accord. Et sinon, il va falloir qu'elles traitent avec les sociétés d'auteurs, en fait, la SACEM, la SACD, la SCAM, en France, hein, parce que là, on parle d'un truc, évidemment, c'est toute l'Europe, mais en France, par exemple, ce sera avec elles. Et du coup, chaque artiste inscrit dans ces sociétés d'auteurs pourra choisir son registre. Qu'est-ce qui va se passer sur YouTube? Est-ce que ça va pouvoir être monétisé, bloqué, etc., etc.
Et c'était justement des arguments de YouTube qui disaient on va pas aller choper les ayants droit un par un pour leur expliquer, pour passer des accords. Mais c'est toujours pas ça que demande l'article 13. Là, c'est carrément c'est des sociétés d'auteurs, donc c'est pas l'ayant droit directement. Et c'est aux sociétés d'auteurs de contacter YouTube et pas l'inverse.
Et alors, vous avez l'impression qu'on rentre dans des détails extrêmement techniques. Mais en réalité, non, pas tant que ça. Parce que derrière ça, il y a deux enjeux, mais colossaux. Il y a un enjeu juridique et il y a un enjeu financier. On commence par lequel, chers amis ?
Le juridique, c'est peut-être le plus simple.
Le juridique, c'est le plus simple parce que tout le monde va vraiment comprendre. Pourquoi est-ce que Google ne veut surtout pas de l'article 13, Ludo ?
Parce que l'article 13 les rendrait responsables de leur contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont simples hébergeurs. C'est une directive 2000 qui a été votée pour protéger en fait les hébergeurs de sites internet. Et donc, qui les rend non responsables du contenu qui est posté. Donc du
ça
coup,
vaut également pour des vidéos d'apologie du terrorisme, d'appel à la haine homophobe, raciale, etc.
De toute façon, sur YouTube, n'importe qui peut poster n'importe quelle vidéo. Donc,
parce que oui, YouTube ou pas YouTube, c'est-à-dire que en fait, la grande question elle est plus philosophique, c'est-à-dire qui est responsable de ce qui est posté sur Internet.
Exactement.
Est-ce que ce sont les gens qui le postent ou les plateformes qui les hébergent? Et c'est là-dessus en réalité que repose l'article 13 et les débats, puisque les deux se valent, les deux visions de ça se valent. Il y en a une effectivement qui est plus pro site internet, pro YouTube, pro Facebook, etc.
Alors quand on dit un statut d'hébergeur, ça veut dire que celui qui a la responsabilité de ce qui est posté, c'est celui qui fait la vidéo et qui la met en ligne.
Aujourd'hui, c'est le cas. Voilà, c'est le cas. Et par contre, les plateformes sont tenues de supprimer des vidéos lorsqu'elles sont notifiées de ça. Donc ça, voilà.
Mais ça, c'est le saint graal, le statut d'hébergeur. Ouais. C'est le saint graal. Ils ne veulent surtout pas perdre
ça. Parce que sinon, juridiquement, ils sont responsables. C'est pour eux, c'est incroyable.
Mais ça ouvre un nouveau monde. Et puis derrière, il y a un enjeu financier et colossal, Hugo.
Alors juste avant, je veux juste préciser, ils sont responsables à partir du moment où ils sont au courant que la vidéo existe.
Oui,
c'est-à-dire, il suffit pas de la poster pour qu'ils deviennent responsables. Faut les notifier.
Mais il y a 400 heures de vidéos postées sur YouTube par minute.
Par minute.
Donc comment ils peuvent être responsables aussi de ça?
Voilà. On peut comprendre qu'ils aient peur, mais à partir du moment où ils sont notifiés, ils savent qu'il y a un problème et évidemment qu'ils doivent s'en charger. Enfin, moi, ça me paraît logique. Et après, il y a un aspect financier derrière qu'ils ont beaucoup mis en avant également, qui est le côté. Mais attendez, on donne déjà X millions d'euros aux droits d'auteur. On va pas en donner encore plus. Enfin, tu vois. Et quand on entend ça de la part de Google, c'est hallucinant. Google qui dit qu'il a en fait, les revenus des droits d'auteur qu'ils émettent, c'est de l'argent qui est partagé entre eux et nous par rapport à l'argent qu'on a généré sur nos vidéos. Donc en gros, l'argent dont ils parlent, qu'ils disent qu'on dépense, c'est de l'argent que nous on génère quelque part. Donc quand ils disent on va devoir sortir tant de millions d'euros, ils vont devoir le faire, mais c'est pas leur argent à proprement parler, si tu veux, c'est une valeur que nous on a créée avec notre contenu.
C'est ça. Donc si je résume, en fait, jusqu'à présent, il y avait des droits d'auteur qui étaient reversés et YouTube le faisait de manière volontaire, mais sur l'argent généré par les youtubeurs, pas sur leur chiffre d'affaires à eux.
Alors, il y a un peu des deux.
Il y a un peu des deux.
Nous on est aussi auteur, ça qui est aussi complexe dans cette histoire, c'est que nous-mêmes on est auteur, donc nous-mêmes on touche des droits d'auteur sur nos vidéos YouTube déjà. Mais il se trouve qu'effectivement aujourd'hui, si jamais on utilise par exemple un extrait de quelque chose qui est protégé par les droits d'auteur, et bien en réalité le robot Quentin Taïdi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bloquer la vidéo ou la monétiser pour l'ayant droit. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo de 10 minutes et dessus vous avez 10 secondes sur la vidéo de 10 minutes qui nous appartient pas, la totalité de la monétisation générée, votre monétisation en tant que créateur, ira à l'ayant droit. Par contre, YouTube, lui, garde sa part de monétisation.
On va toucher au gâteau. YouTube, on a très bien compris. Un dernier mot, parce que quand même, quand on a vu depuis le mois de décembre tous les YouTubeurs mobilisés par YouTube parler chacun à leur échelle, c'est-à-dire PewDiePie, c'est à 9 millions de personnes. Pour d'autres, ce sera 1000 ou 2000, mais quand même 1000 ou 2000 personnes. D'un seul coup, on s'est rendu compte que YouTube avait la capacité de lever une armée invisible dont la puissance, la capacité d'impact en matière d'opinion et d'influence est colossale. Ça fait vraiment réfléchir.
Oui, et alors le problème, c'est que vous en rendez compte beaucoup trop tard, parce que ça fait déjà très longtemps, ça. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on on minimise un peu, effectivement, l'impact qu'a YouTube aujourd'hui sur l'opinion publique et les YouTubeurs, bien sûr, puisqu'on parle de plusieurs millions de personnes.
Ah, c'est une plateforme qui est ultra regardée. Il y a une notion de proximité entre le YouTuber et les gens qui le regardent, qui font qu'il y a une espèce de petite confiance absolue qui se crée. Et quand t'as un mec qui te dit ah, la personne en face, elle va même pas réfléchir, elle va dire ok, je le crois, quoi, tu vois. Et c'est pour ça que c'était un peu dangereux toutes ces vidéos alarmistes que nos confrères ont fait, parce que du coup les gens qui les ont regardées y ont cru tout de suite et ont commencé à parler de ça sur les réseaux eux-mêmes, tu vois, pour dire putain, l'article 13 quand même ça a l'air naze.
Il y a même des parlementaires, des députés européens qui se sont fait alpaguer par leurs enfants en leur disant mais tu te rends pas compte, papa, si tu votes cette directive, je pourrai plus regarder mes youtubeurs préférés. Merci beaucoup au collectif Tatou d'être venu sur France Inter ce matin. On trouvait ça important de vous faire comprendre à quel point YouTube a le pouvoir de lever donc une armée d'influenceurs et de faire connaître et de mobiliser l'opinion publique sur ces dossiers-là. Bonjour Ali Rebeilly.
Bonjour Sonia de Villers.
Alors au menu, combien vous faites?
Vous l'aimez comment votre petit noir? Votre café. Ce matin, on s'intéresse aux bienfaits du café. Quelles sont ses vertus?
J'en ai jamais bu de ma vie.
Quelles sont les véritables... Comment ça, c'est vrai?
C'est vrai.
Ah bon?
Bah, dis donc. Je crois que je suis tellement speed que si en plus on me colle de la caféine, laisse tomber.
Quels sont les véritables effets de la caféine sur l'organisme? Nous verrons comment choisir un bon café, comment le préparer, quelles sont les erreurs à éviter. Toutes vos questions sur le café au 01 45 24 7000.
Le petit noir, désolé, ça m'a vraiment surpris.